La coordination de l'action culturelle de la bibliothèque municipale consiste en l'organisation des événements qui sont proposés toutes les semaines à la bibliothèque, que ce soit des expositions, des rencontres d'auteurs, des concerts, des conférences. Donc je prends contact avec les intervenants, je mets ça en forme dans un programme que je décline ensuite sur Internet. Accessoirement, je suis aussi le budget, donc je m'assure que les intervenants ou les présents, enfin ceux qui organisent les expositions, ceux qui construisent des expositions vont être rémunérés, voilà. Donc voilà, c'est en fait je suis au départ intéressée par la littérature et la culture. Je vais pas vous refaire mon CV, mais j'ai travaillé dans le milieu associatif tourangeau, et en librairie. Donc ces deux pans de ma vie professionnelle ont fait que quand un poste s'est ouvert à la médiathèque François Mitterrand au départ, j'ai postulé et j'ai été recrutée. Donc ça fait déjà 10 ans.
Alors vous êtes fan de lecture, on est d'accord?
J'aime lire, oui.
Oui, parce que c'est vrai que c'est des métiers. Peut-être la base, c'est d'aimer lire aussi pour faire ces métiers-là.
Oui et non, parce qu'en fait, il y a maintenant des vidéothécaires et des discothécaires qui sont des spécialistes de cinéma, documentaire pour la vidéo et de musique. Donc, ils connaissent. Mes collègues sont très avertis soit en musique classique, en jazz ou même en scène locale. Donc, on a quand même une connaissance, un panel, un intérêt vraiment divers et varié. Je n'aime pas que la littérature, j'aime aussi le théâtre et la musique. Et on est beaucoup comme ça.
Et toutes sortes de cultures, pas que la lecture en tout cas.
Tout à fait.
Alors, justement, ce qui vous amène en grande partie, évidemment, aujourd'hui, dans le studio de Sorté, c'est l'événement qui va se dérouler le samedi 20 janvier, si je ne me trompe pas, la nuit de la lecture. Alors, évidemment, on va en parler plus précisément peut-être en deuxième partie d'émission, mais c'est quelque chose de national, faut le dire tout de suite. Mais avant, est-ce qu'on peut parler vraiment de cette bibliothèque de Tours? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de l'histoire de la bibliothèque?
La bibliothèque de Tours, c'est d'abord 7 bibliothèques, 7 établissements. Une à la Tour Centre, la bibliothèque centrale, qui a rouvert ses portes, qui a été restaurée. Donc, elle date de 57. Elle a été restaurée en 2013. Pendant un an et demi, elle a été fermée. Et elle a rouvert ses portes, donc, il y a 4 ans. Et elle, donc c'est un bâtiment, c'est le bâtiment emblématique du réseau des bibliothèques. C'est un gros bâtiment sur le bord de la Loire. Vraiment très imposant, un petit peu architecture un peu stalinienne qui peut impressionner, mais il faut surtout pas avoir peur d'entrer, de pousser les portes et de venir être curieux, voir les expos ou prendre des livres, des magazines. Donc ça, c'est la bibliothèque centrale. Et autour, donc au nord, on a la médiathèque François Mitterrand qui, elle, a 10 ans, vient juste de fêter ses 10 ans en décembre dernier. C'est un bâtiment qui est un équipement qui répond aussi à un besoin, puisqu'il n'y avait pas vraiment de bibliothèque digne de ce nom sur le territoire de Tournord et même de Saint-Cyr. Enfin voilà, ça répond vraiment à un besoin qui n'était pas encore satisfait. Et au sud, on en a plusieurs. Donc la médiathèque des Fontaines, qui se trouve au-dessus de la mairie de quartier, qui elle a 16-17 ans maintenant. Et puis des petites bibliothèques de quartier, la bibliothèque de la Rotonde, spécialisée jeunesse, la bibliothèque des Rives du Cher, qui est juste à côté d'ici donc, sur 2 niveaux, jeunesse au rez-de-chaussée, adulte à l'étage, la bibliothèque de la Bergenerie, qui est une plus petite bibliothèque de quartier et qui, elle, est très proche de ses habitants.
Donc c'est un réseau en fait de 7, hein, vous l'avez 7. Dit, 7 bibliothèques. Est-ce que vous pouvez faire une petite différence entre la bibliothèque et la médiathèque?
Et la médiathèque.
Oui, il y a quand même une petite nuance.
Oui, bien sûr. C'est, comme je vous disais, aujourd'hui on offre des collections de cinéma et de musique. Et c'est la bibliothèque qui offre ces 3 types de collections, donc livres, magazines, cinéma et musique, sont des médiathèques. Simplement. Après, en ce qui concerne le numérique, elles sont plus ou moins accessibles tous des portails qui sont à disposition dans chacune des sections. Mais le principal argument qui fait qu'une bibliothèque n'est pas n'est plus simplement une bibliothèque, c'est qu'elle a des collections de films et de musique.
Voilà, pas que livres en fait.
Pas que livres.
Tout simplement. Est-ce que cette bibliothèque ou médiathèque, en tout cas un réseau de cette structure dédiée à la lecture et à la culture plus généralement, est-ce que c'est beaucoup dans une ville aussi grande que Tours ou c'est plutôt peu? Est-ce que vous avez d'autres chiffres par rapport à des villes?
Non,
qui
c'est un ratio qui est assez correct.
Ouais.
C'est bien. Voilà. Après, c'est non, je pense
parce que vous l'avez dit il y a 10 ans. Donc, c'est la médiathèque à Tournord qui a vu le jour. Ça répondait fondamentalement à un besoin.
Oui.
Aujourd'hui, le besoin il est plutôt satisfait pour tout le monde.
Dans la mesure où tous les habitants ne sont pas inscrits, on a encore largement la possibilité de développer notre activité. Donc on peut se dire que oui, ça va bien. La bibliothèque va bien en termes de fréquentation, mais elle peut augmenter.
Elle peut augmenter. On peut toujours faire mieux. Hein.
On peut toujours faire mieux. Et j'invite les auditeurs et les habitants de Tours et de l'Aglo à venir s'inscrire pour profiter de tous les attributs, enfin de tous les avantages de la bibliothèque.
Alors justement, qu'est-ce que vous leur direz aux Tourangeaux pour les pousser peut-être à lire et puis à se rendre à la bibliothèque?
Eh bien, c'est une façon de se divertir, d'ouvrir nos champs critiques, d'apprendre. C'est du plaisir, c'est se changer les idées.
Que du bonus.
Que du plus. On est une bibliothèque publique, donc on n'a pas pour mission l'enseignement pur et simple, comme ça peut être le cas à la bibliothèque universitaire. On est une bibliothèque d'information, donc de formation et de divertissement.
Par rapport à la bibliothèque centrale, donc c'est ce bâtiment qui a été rénové en 2013, on la surnomme la Dame au chapeau vert. En tout cas, elle est surnommée comme ça par les Tourangeaux, du fait, on l'a parlé, de son bâtiment un peu typique et stalinien, vous avez employé ce mot-là, mais c'est vrai qu'il rappelle cette architecture. Quelles sont les expositions? Vous avez parlé tout à l'heure d'expositions qui sont tout au long de l'année dans la bibliothèque de Tours.
Quelles sont les expositions
À venir ou qui sont déjà passées?
Qui sont importantes, qui nous ont tenu à cœur.
Exactement.
Alors, on vient juste de finir de démonter l'exposition Mémo, qui a été présentée pendant tout le mois de novembre et décembre à l'occasion de l'ouverture du centre Patrice Wolf, qui est un centre de ressources en littérature jeunesse, qui a ouvert donc dans un petit espace de la section jeunesse. Actuellement, on inaugure, on présente une exposition sur la notation musicale à l'époque moyenâgeuse, avec un cycle de conférences autour de cette exposition qui est présentée en partenariat avec le conservatoire à rayonnement régional de Tours. Et au mois d'avril, on aura une exposition sur le réchauffement climatique, une exposition qui est présentée par l'espace des sciences de Rennes.
Avec quel genre d'œuvre qui sera?
Ce sont des photos et
des
du
photos
texte qui expliquent tous les enjeux, en fait, enfin toutes les j'ai perdu le mot, tout ce qui est tous les, comment dire, les impacts, enfin tous les impacts négatifs du réchauffement climatique sur les animaux.
Comment vous le programmez justement, ce programme? Ça fait deux fois le même mot, la répétition, mais comment vous vous décidez et comment vous faites pour programmer tout ça?
On est une équipe de 100 personnes à la bibliothèque centrale.
Ah oui, 100 personnes quand même.
Oui, et alors sur le réseau, 100 personnes sur l'ensemble du réseau et je crois une soixantaine à la bibliothèque centrale, donc divisée en sections. Et chaque section a des envies qui correspondent à une actualité, à des collections, à un événement national. Et donc, on a des propositions qui émanent de nos collègues. Donc, section jeunesse, adultes, musique et cinéma, ou patrimoine d'ailleurs, puisqu'on a quand même une section patrimoine qui a une importance au niveau national, puisqu'elle est, en fait, la bibliothèque municipale est classée d'État, parce qu'on conserve un fonds qui date de l'époque, au moins, enfin, pour certains documents, de l'époque de Charlemagne. Donc,
d'accord.
Voilà.
Ça remonte un peu, ça.
Voilà, c'est des collections qu'on ne peut pas voir facilement, voire pas du tout, parce que c'est vraiment conservé dans des conditions particulières, et on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les sortir comme ça, mais voilà, il faut savoir qu'on a quand même des collections très très anciennes, très importantes donc. Les collègues nous proposent des rendez-vous, des thèmes, ou bien nous-mêmes, donc Emmanuel Jarry, qui est ma responsable, et moi, nous avons des sollicitations extérieures ou encore des idées en fonction de thèmes de la même façon d'actualité ou de propositions, peut-être des idées originales qui viennent de notre bibliothèque ou...
Il n'y a pas un thème prédéfini au début de chaque saison en se disant cette année on va faire des expositions autour du thème du climat ou...
Pas au début de chaque saison, ça se tisse tout au long de l'année.
Tout au long de l'année.
Pour l'instant, c'est tout au long de l'année.
Oui, c'est quelque chose qui se fait. En tout cas, c'est vrai que vous êtes beaucoup. On n'a pas parlé de l'équipe, mais une centaine sur tout le réseau, hein, vous l'avez précisé. Une soixantaine à la Bibliothèque Centrale. Est-ce que c'est facile aussi, avec autant de personnes, d'arriver à des décisions aussi communes?
Le service Action Culturelle de la Bibliothèque est pour le coup tout petit. En fait, on est deux.
Ah oui.
Et donc... D'où l'intitulé de coordination pour mon poste, puisque en fait je reçois les sollicitations et je les répercute soit sur l'agenda, soit en commission de décision. Enfin, c'est pas facile, mais ça se fait.
Ça se fait. Vous y arrivez en tout cas.
Oui, oui, oui.
Céline, je vous avais proposé un petit quiz hors antenne sur la lecture, sur le monde de la lecture. Et on va le faire. Maintenant, je mets le petit jingle et on est parti. Est-ce que vous êtes prête?
Oui.
Alors, sur 100 Français, combien disent avoir, ou plutôt combien déclarent avoir lu un livre au cours de ces 12 derniers mois, à votre avis?
25%.
25%, 12 ouais. Derniers mois, hein. Ça fait.
Ah oui, ça
sur
fait
un
ça
an.
Fait. Oui, oui, ouais. Oui, j'exagère. Oui, oui, non, je pensais au gros lecteur. Mais alors 80%.
On est un peu plus, 90% quand même.
D'accord.
Donc quasiment tous les Français déclarent avoir lu un livre au cours de ces 12 derniers mois. C'est beaucoup quand même, non? Ça prouve
sur
que
un an, non, c'est pas énorme.
Oui, c'est vrai que 12 mois, il faut aussi préciser. Combien de le pourcentage, est-ce que vous avez ce chiffre-là, de Français qui répondent lire tous les jours?
Voilà, là on est à beaucoup moins.
Tous les jours.
Alors ouais. Tous les jours, peu importe que ce soit roman, presse...
Voilà, peu importe, c'est vraiment lecture de livres, hein. Je précise aussi parce que je mets de côté tout ce qui est magazine, presse, etc. De livres.
De livres,
oui.
Donc 25% je dirais.
Et on est à plus, on est à 48%,
ah, 48.
Qui répondent lire tous les jours. Après, on ne sait pas, évidemment, dans les sondages, il y a aussi cette part, peut-être que certains mentent ou ne disent pas la vérité pour adoucir les angles. Ça, en tout cas, c'est une
pour
autre
histoire. Pour se rassurer.
Mais un Français sur deux lirait tous les jours. C'est quand même assez...
C'est bien.
C'est un chiffre correct.
Ouais. Oui.
Troisième question. Sur 100 Français, toujours, je vous avais dit, hein, c'est un quiz spécial chiffre aujourd'hui, pardon. J'ai un peu la gorge sèche. Combien de Français préfèrent acheter des livres neufs plutôt que des livres d'occasion?
Sur 100 Français.
Sur 100 Français.
Alors, la librairie va quand même assez bien, je dirais 70%.
Ah, vous n'êtes pas loin, c'est 81%. Et 75% des Français iraient en librairie pour acheter leurs livres. 75%, donc ce qui laisserait 25% grosso modo aux autres types de supports, en tout cas de commercialisation du livre, dont Internet, on ne va pas se le cacher.
Oui.
Parlons maintenant bibliothèque, ou en tout cas une question qui concerne les bibliothèques. Combien de lecteurs, pareil, un pourcentage, empruntent un livre en France? Combien de Français empruntent des livres à la bibliothèque?
Alors ça, c'est pas... Enfin, la proportion d'inscrits en bibliothèque par rapport à la population locale est assez faible, en fait.
Assez faible.
20%?
C'est un peu plus, c'est 30%. C'est, en fait, c'est 3 lecteurs sur 10, mais vous n'êtes pas loin à chaque fois. Effectivement, c'est 3 lecteurs sur 10 qui emprunteraient des livres dans les établissements type bibliothèque, etc. Et dernière petite question... Sur 100 Français aussi, combien se tournent vers le marché de l'occasion, achètent des livres d'occasion?
Alors si on a 80% d'acheteurs de livres neufs, on est à 20% d'acheteurs de livres d'occasion.
Oui, le raisonnement est bon, mais c'est un petit peu plus, c'est 25% en fait, parce qu'il y a des gens qui achètent des livres neufs et des livres d'occasion.
Oui.
Donc, mais en tout cas, un Français sur quatre, on estime à un Français sur quatre, des gens qui achètent des livres aussi d'occasion. Vous en avez acheté, vous, des livres d'occasion ou...
J'achète souvent des livres neufs, en fait.
Souvent des livres neufs.
Et j'emprunte assez peu des livres. J'emprunte de la musique ou des films, mais assez peu de musique, assez peu de livres, pardon, je m'achète.
C'est quelque chose que vous voulez avoir, vous.
Oui, c'est fétichiste. Il y a le côté fétichiste, le côté de pouvoir le garder pour le partager ensuite, parce que je l'aime, parce que voilà, et puis ça constitue une bibliothèque à la maison, c'est important.
D'ailleurs, à ce propos, qu'est-ce que vous pensez des nouvelles tablettes maintenant pour lire les livres? Est-ce que ça va remplacer à terme le livre papier ou pas, selon vous?
Alors, dans la génération plus de mon âge, le rapport à l'objet livre reste très important. Donc, le temps va encore passer avant de voir complètement disparaître. Mais je ne pense pas que le livre disparaîtra au même titre que le vinyle réapparaît et reprend une belle santé. On va même revoir les cassettes audio dans pas longtemps. Donc, le support est pas aussi agréable que de toucher le papier, de tourner les pages, de sentir un livre, le poids du livre. Enfin, j'ai jamais lu sur tablette, à vrai dire.
Est-ce que c'est quand même une problématique qui remet en question un
touche,
peu et qui vous touche, oui,
bien
la
sûr.
Bibliothèque
oui,
de tout.
Ça, ouais. c'est le numérique est un sujet important en bibliothèque, de même que la dématérialisation. On a des tablettes, on a des collections de livres numériques qui sont disponibles, téléchargeables depuis le portail de la bibliothèque. Et donc, on a même l'objet tablette qui est empruntable avec toute une série de livres stockés sur celle-ci. Donc, c'est des choses qu'on est obligé d'avoir. De toute façon, il faut qu'on soit allé dans notre époque.
Oui, voilà, faut vivre avec l'époque et faire avec. Alors, on va parler maintenant de la nuit de la lecture qui se passera le samedi 20 janvier, si je me trompe pas. C'est une journée nationale qui sert à quoi, finalement? On va peut-être commencer par là. Qui sert à promouvoir la lecture dans son ensemble?
Qui sert à donner un autre visage à ces établissements qui promeut la lecture, puisque ça concerne à la fois les bibliothèques et les librairies. Mmh. Et c'est donc donner une autre façon d'approcher le livre. Le livre ou tout ce qu'on peut trouver dans une bibliothèque. Puisque, comme je vous disais, nous, on n'est pas seulement bibliothèque, on est aussi vidéothèque et discothèque. Donc voilà, ça permet d'accueillir aussi le public qui ne peut pas forcément venir aux heures d'ouverture habituelles. C'est comme une promenade d'une soirée dans un établissement culturel, comme la Nuit des Musées qui reçoit aussi beaucoup de visiteurs. C'est voir la bibliothèque autrement la nuit, avec parfois des petits recoins aménagés pour permettre de rencontrer un lecteur, enfin un lecteur incarné, hein, pas simplement un visiteur, pour permettre de voir d'autres collections, de découvrir le travail aussi des bibliothécaires qui sont aussi des spécialistes.
Alors pour le préciser, nuit de la lecture, ça prête aussi un peu à confusion. Oui. Quand on parle de nuit, c'est pas 3h du matin, hein. faut
oui,
placer les choses dans son contexte.
Les bibliothécaires ne sont pas noctambules non plus.
Oui, et puis ça tourne plus autour des 20h, 21h, grosso modo, en termes d'horaire. Hein.
Là, ce sera 22h.
Oui, 22h, pardon. C'est vrai que... mais en tout cas, nuit, il fera nuit. Hein,
il fera nuit. On est en janvier, il fera nuit.
Voilà, alors c'est la deuxième édition de la nuit de la lecture. Vous y avez participé
l'année dernière,
passé
oui.
Comment ça s'était passé et autour de quoi ça s'était axé un peu l'an passé?
L'année dernière, on a, comme cette année, en fait, on a proposé des temps de lecture en petit comité toute la soirée, en jeunesse, autour de collections comme les Kamishibai ou les livres pop-up qu'on ne sort pas facilement, enfin pas si simplement. En fait, c'est un peu les heures du conte qui sont proposées tout au long de la soirée pour le jeune public. L'année dernière, c'était aussi une lecture avec une comédienne du Théâtre Olympia pour les lettres de Pasternak et Marina Svetlana. J'écorche son nom, c'est juste pas ça en fait, mais j'ai oublié son nom. Enfin, c'était des lettres d'amour très beaux, et donc elle avait fait une petite mise en scène qu'on a présentée dans l'espace escale au premier étage de la bibliothèque. C'était aussi l'occasion de suivre un quiz sur les séries télé. Et on pouvait aussi visiter avec mon collègue qui est gardien de l'établissement tous les coulisses de la bibliothèque centrale.
Donc ça, c'était
l'année dernière. C'est ça.
Cette année, évidemment, nous sommes en 2018. J'ai vu, vous avez parlé de Kamishibai.
Kamishibai.
Je sais pas si je prononce ça correctement aussi. Ça sera au programme cette année. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est ?
Alors, Kamishibai, c'est un dispositif de lecture comme un petit théâtre, tout petit. Et ce sont des grandes illustrations qui sont glissées dans ce petit dispositif sous la forme d'un théâtre, comme sur un pupitre, voilà. Donc on glisse et puis on raconte une histoire en fonction de l'image. Et l'image est, en fait, c'est des pages détachées mais en grand format sur support rigide. Et voilà, donc ça a des origines japonaises, le théâtre d'ombre ou ces petites choses-là. Enfin, c'est un support livre qu'on ne prête pas, donc qu'on ne peut voir que sur place, et qui développe tout un imaginaire, parce que les images sont souvent très très jolies et très très parlantes.
Et qui sera au programme cette année de la Nuit de la Lecture. Quoi d'autre?
Alors, pour la section jeunesse, vous pourrez aussi, enfin, les enfants pourront et leurs parents pourront venir écouter des histoires sous la tente, puisqu'on a installé une petite tente dans la section jeunesse. On pourra aussi, alors on a une salle d'heure du conte qui est une salle obscure, et on pourra aussi écouter des comptines, des poèmes. Au premier étage, enfin à l'entresol de cet espace jeunesse, vous pourrez aussi jouer à des jeux de société, puisqu'on a aussi développé des collections de jeux de société, toutes sortes de jeux, mémo, des mémories, enfin des jeux de société d'éveil ou des Dixit, enfin plein de jeux. On essaye aussi d'être assez actuel. Enfin, le jeu a aussi de belles heures en ce moment, donc il y a une production assez importante et on essaie d'avoir aussi tous ces panels. Donc ça, c'est pour la section jeunesse. Donc a priori, enfin, la section devrait être ouverte jusqu'à 22h, mais les animations seront disponibles jusqu'à 20h30, 21h, voilà, pour la section jeunesse.
Okay.
En revanche, pour l'espace adulte, ce sont les collègues qui vont se prêter à l'exercice de la lecture à voix haute, donc pour un public d'adultes, en proposant de mettre en voix les 10 commandements, enfin les commandements de Daniel Pénac.
D'accord.
Sur l'autorisation de lire ou de ne pas lire, d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est à 19h. À 20h30...
Je vous coupe. Dans l'espace adulte, là, parce qu'en fait, il y a plusieurs espaces. Espace jeunesse, espace adulte. Donc là, on est bien dans l'espace adulte.
Espace adulte, voilà. En fait, alors, c'est pas chronologique, pour le coup. C'est, on va dire, par espace. À 20h30, on aura un temps original, enfin, inédit, puisqu'une lecture dessinée de nouvelles humoristiques sera présentée avec Pascal Vion, qui est un collègue bibliothécaire, et une illustratrice graphiste, Anne-Périne Coué. Ensemble, ils vont nous présenter des nouvelles humoristiques, de textes différents de Roald Dahl, de Buzzati, de Saki ou de Dorothy Parker, qui seront illustrés pendant trois quarts d'heure, une heure, en vidéo-projection, enfin en rétro-projection. Donc voilà, donc c'est original, une façon insolite de voir et d'entendre.
Allez-y, oui, vous pouvez continuer, parce qu'il y a aussi deux autres espaces, en fait. Il y a alors, l'ordre, l'espace jeunesse, l'espace adulte, l'espace musique et cinéma et l'auditorium.
Voilà.
Donc voilà, pour toutes les choses qui vont se passer à la Nuit de la Lecture, allez-y, je vous laisse continuer pour les deux derniers espaces.
Donc dans l'espace musique et cinéma, qui se trouve au deuxième étage de la bibliothèque centrale, il y aura des comptines du monde qui seront également présentées par les bibliothécaires. En fait, cette Nuit de la Lecture, pour nous, c'est vraiment l'occasion de montrer tout le savoir-faire des collègues. Et ils ont mis toute leur énergie, tout leur intérêt pour ou les nouvelles, ou les comptines, ou la lecture à voix haute. Enfin, c'est vraiment le moment pour eux, ou leur savoir-faire de musicien. Enfin, le moment de montrer que le bibliothécaire n'est pas seulement la personne qui reçoit le livre et qui le redonne. Enfin, donc c'est l'occasion vraiment de montrer aussi un nouveau visage
du bibliothécaire.
Et du coup, à l'auditorium, on aura deux temps quiz sur les collections de séries télé et collections de musique, de musique à travers le temps, enfin, musique contemporaine, enfin actuelle, pas un petit peu classique, un peu jazz quand même, mais c'est un quiz musical. Donc des jeux participatifs où le public vient et se prête aussi à l'action. Il y aura des petits lots à gagner pour féliciter et remercier les participants.
Et les vainqueurs. Et du coup, là, dans ces deux espaces, c'est vraiment de tout âge. Hein.
Tout âge.
Ça se destine à, oui, vraiment à...
Alors, le Game of Series et le Quiz Télé, c'est quand même à partir de 12-13 ans. Enfin, il faut avoir un minimum de connaissances de la musique ou des séries télé, mais pas les tout petits. C'est pour ça que beaucoup d'animations sont proposées au rez-de-chaussée pour les 0 à 14 ans.
Et on peut aussi préciser que c'est gratuit, tout est gratuit ?
Tout est gratuit.
Alors ça, c'est une volonté de la Nuit de la Lecture, en tout cas de cette journée nationale, ou c'est vraiment la bibliothèque de Tours qui a mis ça en place ?
Non, c'est toujours gratuit. Nos animations sont systématiquement gratuites. Bien sûr, on paye nos intervenants, mais on propose des événements gratuits, qu'ils soient conférences, concerts, tout est toujours gratuit. Les seules contraintes qu'on peut rencontrer, c'est de devoir s'inscrire parfois pour réserver sa place, mais la plupart du temps, on ne proposera jamais une animation payante. Le seul coût qui existe à la bibliothèque, c'est de s'inscrire pour emprunter, et c'est assez modeste pour une année d'emprunt. Pour un habitant de Tours Métropole, c'est 11,50 €. Et pour hors métropole, c'est 23 € pour l'année, sachant qu'on emprunte beaucoup.
Autant qu'on veut, ou il y a des restrictions.
C'est 10 livres, comprenant les bandes dessinées, les revues, les romans. 8 disques, 4 DVD fiction ou documentaire, 8 CD... Et puis, des textes lus. Ça laisse. Et on peut regarder le film et le ramener dès le lendemain.
Ouais.
Donc, on emprunte maximum pour un mois, mais donc on peut revenir quand on veut.
Et en tout cas, vous faites bien de le préciser, on peut emprunter d'autres choses que des livres, des CD et des films notamment. En tout cas, ça sera la Nuit de la Lecture le 20 janvier, on le rappelle à nos auditeurs, le samedi très exactement. Et ils peuvent retrouver finalement toutes les petites informations de cette journée sur votre site internet, je le répète, ou en tout cas je le dis, www.bm-tour.fr. C'est cela. Et puis sinon, tout simplement, trouver la bibliothèque ou trouver la bibliothèque au 2 bis avenue André Malraux, c'est ça ?
C'est pour la bibliothèque centrale.
La bibliothèque centrale, effectivement, puisqu'on a dit qu'il y a un réseau de 7 bibliothèques en fait à Tours, de Tours Nord à Tours Sud. Voilà, merci beaucoup en tout cas Céline.
Le dimanche.
Ah, le dimanche, allez-y, dites-nous qu'est-ce qui va se passer le dimanche.
Eh bien, le dimanche 21 janvier, la bibliothèque sera ouverte, puisque depuis le mois de septembre dernier, on ouvre un dimanche par mois. Et c'est donc également l'occasion pour les Tourangeaux et les gens de l'extérieur de Tours, mais de venir à la bibliothèque l'après-midi entre 14h30 et 18h. Et donc pour ce dimanche-là, on aura un atelier d'écriture pour la jeunesse, une présentation de vinyle avec écoute, et vous pouvez même amener vos vinyles si vous avez envie de les partager. On aura également une présentation d'applications sur tablette sur le thème de la vie pratique et une sortie de résidence avec la compagnie La Rosée, qui sont des comédiens du sud de la France, près de Montpellier, et qui font une sortie de résidence sur un texte de Jean-Luc Lagarce. Ils sont toute la semaine, en fait, depuis aujourd'hui jusqu'à la fin de cette semaine, à Tours pour travailler leur nouvelle création. Et ils nous font l'honneur et le plaisir de venir présenter cette première étape de création à 15h à la bibliothèque centrale dimanche 21.
Finalement, dans la foulée de la Nuit de la Lecture.
Voilà, on se couche pas.